monde d'applaudir. David Camus.
Bonjour.
Qui, comme toute vedette, sait se faire applaudir. Voilà, donc j'avais la peine de commencer, j'avais juste précisé voilà ce qu'on allait faire. On allait parler de World of Lovecraft.
Oui.
Donc, alors, comment ces deux hommes sont-ils venus à se côtoyer? Non, à se rencontrer? Non, ils ne se sont jamais rencontrés. Ça a failli se faire en 1932, ça ne s'est pas fait. Au tout début de sa carrière, Howard est quelqu'un qui est intéressé avant tout par tout ce qui est récit d'aventure, récit historique. Et le fantastique n'est pas franchement sa préoccupation première. Ceci dit, dès 1923, il découvre une nouvelle revue qui apparaît sur les stands américains, qui s'appelle Weird Tales, qui est maintenant devenue une revue légendaire, mais qui à l'époque, et durant toute son existence, n'était qu'une revue de seconde zone, où il était très difficile de se faire payer, qui a eu une première année d'existence très chaotique, elle a changé plusieurs fois de format, de taille, de pagination, d'éditeur en chef. Bref, une existence assez bizarre. Il y a un seul auteur véritablement intéressant. J'ai lu tous les numéros, les quatre premières années de Weird Tales. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver, à part, honnêtement, Lovecraft et trois textes et demi qui sont assez intéressants. Le reste, ce sont des histoires de fantômes absolument ennuyeuses au possible. Mmh.
Pour l'anecdote...
Micro, tu sais.
Oui, mais celui-ci ne marche pas. Pour l'anecdote, Lovecraft repère également Weird Tales. Il écrit au rédacteur en chef de l'époque, Farnsworth, pour lui dire... C'est là, en fait, que sa première nouvelle sera publiée de manière professionnelle, Dagon. Alors, il écrit une lettre assez rigolote dans laquelle il dit, voilà, je ne me soucie pas du genre d'écriture, du genre de nouvelles publiées, de l'écriture commerciale et autres, je n'écris que pour mon propre plaisir, etc. Il cite ses références qui sont Poe et d'autres, c'est assez rigolo. C'est une sorte d'exemple typique de lettre qu'il ne faut surtout pas envoyer à un éditeur quand on a envie d'être publié. Voilà, ça n'empêchera pas évidemment Lovecraft d'être publié, il sera l'un des auteurs de... Il sera régulièrement publié par Weird Tales dans les années 20, dans les années 30, c'est une autre histoire.
Oui, tout à fait. Auteur vedette de Weird Tales, à une époque où il n'y a pas vraiment d'auteur vedette dans la revue, à un point tel qu'à un moment, lorsque le magazine est sur le point de cesser parution, parce qu'ils sont en dette de 50 000 dollars à l'époque, on propose à Lovecraft de devenir le nouveau rédacteur en chef de la revue.
C'est, je crois, en 26
24. 20 ans, 24. Et il refuse.
Alors, c'est assez compliqué pour lui. C'est l'époque où il cherche du travail. Il y a une période assez rigolote, si je veux dire, en fait, pas si drôle que ça, mais cocasse quand on connaît un petit peu Lovecraft. On a beaucoup de mal à l'imaginer occupant un travail salarié ou un travail digne de ce nom. Alors, il y a cette histoire avec Weird Tales. Il a fréquenté également, il aurait été plus ou moins, ou il aurait cherché à travailler pour une compagnie d'assurance. Confirmera Patrice. Il rédige des sortes de modèles de lettres. Alors, je ne sais pas pourquoi finalement il n'est pas recruté, ou si d'ailleurs on peut comprendre que la compagnie n'a pas forcément voulu le recruter lui, mais semble-t-il son modèle de lettres était si bien fait qu'ils l'ont gardé.
L'abominable contrat d'assurance.
C'est vrai qu'on imagine bien Lovecraft en agent d'assurance venant vous voir pour essayer de vous vendre des contrats. Je ne sais pas si on aurait
pu. Il peut vous arriver quelque chose d'indicible, d'abominable. Signez ma police d'assurance. Bref, Lovecraft refuse le poste. Pourquoi? Parce qu'il devrait déménager à Chicago, où était basé Weird Tales, et donc il refuse de le faire. D'autant plus qu'à l'époque, il est amoureux de Sonia Green, qu'il vient d'épouser. Et donc, du coup, il est hors de question pour lui de prendre le poste. En 1924, donc, c'est un monsieur qui s'appelle Farnsworth Wright qui prend la direction, les rênes de Weird Tales. Et son premier travail va consister à chercher de nouveaux talents, en dehors des quelques maigres talents qui ont été révélés dans les premiers mois d'existence de la revue. Donc Lovecraft, on l'a cité. Il y a un monsieur qui s'appelle Clark Ashton Smith aussi, qui a publié deux poèmes. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais ça a retenu l'attention de Wright. Il me semble qu'il y a Frank Belknap Long et Seabury Queen qui sont arrivés juste avant, dans les derniers mois d'existence avec l'ancien éditeur. Et Wright, tout de suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à trouver de nouveaux talents. Personnellement, c'est bien plus tard. Il va chercher à trouver de nouveaux talents. Et il y en a un d'entre eux, ça va être Robert Howard. Alors, j'expliquerai dans le prochain, dans la prochaine conférence qui va suivre celle-là, comment est-ce que Howard a été en fait accepté et publié par Weird Tales pour la première fois, puisque c'est une histoire que personne ne connaît. J'ai découvert cette histoire il y a 2-3 mois dans des recherches assez... c'est assez impressionnant. Je vous raconterai comment est-ce que Howard est devenu collaborateur de Weird Tales. 1924, donc 1925, Howard devient collaborateur de Weird Tales, il publie quelques petites nouvelles. Il devient assez célèbre en 1928 avec la publication de Red Shadows, la première nouvelle de Solomon Kane. Et il commence à prendre son envol littéraire et il est un fan absolu de Lovecraft. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est facile de dire Lovecraft, c'est génial, mais on a des lettres de lui qui ont été envoyées à Weird Tales, qui sont parues à l'époque de l'apparition de l'Appel de Cthulhu. Et la lettre dit, mais voilà, il faut que je vous dise, je viens de lire l'Appel de Cthulhu et Lovecraft, il n'y a pas d'autre terme, c'est un génie, ce type est extraordinaire. Et donc là, il commence tout juste à être publié et Howard a déjà vu le génie visionnaire de Lovecraft. On a retrouvé il y a encore quelques années des brouillons de lettres qui ont été envoyées ou pas, on ne sait pas, à Weird Tales, dans lesquelles il ne tarit pas d'éloges sur Lovecraft. Donc dès le départ, Howard avait vu que Lovecraft était un talent hors norme.
C'est pas le seul.
Sans doute.
Non, mais tu as Robert Bloch, par exemple.
C'est putain.
Tu as Robert Bloch.
Alors, il n'est pas le Robert E. Howard, si on oublie le E, il se passe, donc il faut bien rajouter le E, n'est pas le seul, si vous voulez, à avoir été comme ça, sous le charme des talents de Lovecraft, et avoir écrit à la revue, soit pour le parler de Lovecraft, soit pour essayer de d'entrer en relation avec lui.
Oui, plus tard, il y en avait pas mal, Bob Locke, etc. Mmh. Années 20, c'est Howard, Long, etc., ces gens-là. Juin 1930, Weird Tales rédige une nouvelle de Lovecraft qui était parue dans le numéro de 1924 et qui s'appelle Les rats dans les murs. Je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle de Lovecraft, c'est un type qui hérite de mémoire, ça fait très longtemps que je l'ai...
Une maison d'un château en Angleterre, où voilà. Il fait voyage des États-Unis jusqu'en Angleterre, et là il entend des bruits de rats dans les murs, et comme toujours avec, comme souvent avec Lovecraft, si vous voulez, cet homme qui vivait cette relation, cette maison de manière un peu étrangère, enfin pour lui il l'apercevait comme quelque chose qui avait appartenu autrefois, il y a longtemps, à ses ancêtres, etc., il se rend compte en fait qu'il est intimement lié à cette famille, qu'il est intimement lié à cette maison, qu'il est même intimement lié aux rats qui dévorent des morts qui auraient été tués autrefois par sa propre famille. C'est-à-dire qu'on ne vient jamais dans une maison hantée par hasard.
C'est terrible. Et donc, à la fin de la nouvelle, brusquement, on entend des voix qui s'élèvent de la demeure, et en fait, c'est quelqu'un qui s'exprime dans un dialecte gaélique, donc une sous-branche de langue celtique, de ce qu'on appelle le celtique tel qu'on le parlait les Gaëls, donc ça veut dire principalement, très schématiquement, les Celtes irlandais installés en Écosse et en Irlande. Je schématise. Donc un dialecte. Et là, Howard lit la nouvelle, et du coup, il écrit une lettre à Wright, à Weird Tales, il dit, c'est absolument extraordinaire, voilà, je pensais que personne ne pouvait, n'était comme moi, et pensait qu'il y avait une antériorité des gaéliques par rapport aux britanniques dans telle région de la Grande-Bretagne à cette époque-là. Je me demande d'où M. Lovecraft tient ces théories, parce que c'est quand même assez étonnant, on n'est pas beaucoup à penser ça. Wright reçoit cette lettre, il est un peu comme vous et moi, il dit bon, ok, d'accord, il n'est pas super au fait des dialectes celtiques insulaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la lettre à Lovecraft, puis alors, je crois qu'on n'a plus la lettre de Wright à Lovecraft, mais grosso modo, il transmet la lettre de Howard. Et Lovecraft, en fait, lui, avait simplement pioché le texte gaélique dans une nouvelle de Fiona MacLeod qui s'appelle en anglais The Sin Eater, je ne sais pas si c'était traduit en français. Et il avait simplement pris le texte, il l'avait recopié tel quel, il n'avait absolument aucune idée de la précédence gaélique ou britannique dans les livres celtiques. Et voilà, il reçoit la lettre de Howard, et du coup, Howard se fonde une longue lettre de 4 pages qui lui explique toutes ses théories sur le pourquoi, du comment, est-ce que les Gaëls étaient là avant les Irlandais, avant les Britanniques, etc. Et Lovecraft reçoit cette lettre, il est super impressionné, parce qu'il se rappelle avoir lu du Howard, il se rappelle à Hugh Said en particulier, en français ça s'appelle La tête de loup, je crois que j'ai fait ça comme ça, je me rappelle le titre, en 1926 sur un banc de Brooklyn, il se rappelle avoir lu 2-3 nouvelles, mais rien qui l'ait marqué de façon intense. Et là il reçoit sa tête, il dit waouh, mais ce Howard il en est quand même dans la tête, je suis assez épaté. Et il écrit ça à ses amis, et du coup va commencer une correspondance entre les deux hommes qui va durer jusqu'à la mort de Howard en juin 36 et qui fait la partie Howard Lovecraft a survécu en intégralité, elle fait 403 pages dactylographiées simple espace.
Howard à Lovecraft.
La partie Howard vers Lovecraft. La partie Lovecraft vers Howard a survécu à 30% malheureusement, donc il y a pas mal de passages qui sont perdus.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
À jamais. Oui, parce que le père Howard a brûlé à un moment par ailleurs des papiers et il a brûlé les lettres de Lovecraft ainsi que pas mal de poèmes de son fils. Bref. Malheureusement, donc ça s'est perdu. Heureusement que Auguste Derleth avait récupéré les lettres entre-temps, il avait fait des copies, des transcriptions. Alors, tout n'est pas dedans, malheureusement, mais il y a une bonne partie de paragraphes, parfois de lettres complètes, qui ont survécu. Plus, on a récupéré, il y a une trentaine d'années, une quarantaine de cartes postales de Lovecraft Award, donc qui ont été sauvées, et qui sont donc connues. Un élément intéressant, c'est qu'il y a quelques années, j'ai découvert dans les archives de Glenlord, donc de Howard, une dizaine de pages de tapées par Howard, qui sont en fait, c'est Howard qui, au début de leur correspondance, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu du Lovecraft dans le texte, il écrivait avec des chiures de mouche, c'est illisible. Donc ce que faisait Howard lorsqu'il recevait des lettres comme ça de correspondants importants, Lovecraft était un correspondant pour lui extrêmement important, il était fier comme un pan d'avoir reçu une lettre de Lovecraft, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recopié, il a retapé à la machine 3-4 lettres de Lovecraft, telles quelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors, au-delà du fait qu'on ait ces transcriptions qui ont survécu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les comparer aux transcriptions qui ont été faites par Auguste Derleth, et les différences sont vraiment mineures. C'est-à-dire, parfois, il y a un mot, ils ne sont pas d'accord sur la lecture, parce que c'est vrai que c'est difficile à déchiffrer. Mais donc, globalement, on peut se dire que ce qu'on a récupéré d'Auguste Derleth, ça reste du matériel qui est digne de foi, qui est fiable. Voilà. Et donc, cette correspondance, elle va durer 6 ans et elle va s'étaler sur tous les domaines. Au départ, ça parle donc des Celtes, donc c'est très très celtophile, celto-celtique. Et progressivement, ça va s'étendre sur la politique, la barbarie, la civilisation, Rome, le sport, les savants, la nourriture, les voyages, les climats, les chats, les chiens. Et c'est une correspondance qui est, mais fascinante du début. Jusqu'à la fin. Elle est fascinante pour nous qui sommes amateurs de Howard et de Lovecraft, elle est fascinante pour quiconque s'intéresse à cette littérature de genre, et je pense qu'elle est même fascinante en tant que témoignage des deux écrivains de l'époque, sur le monde dans lequel ils vivent, d'autant plus que Howard vit, est un rural ou un semi-rural, il vit dans un petit village du Texas, et que Lovecraft, lui, vit à New York dans un premier temps, et ensuite à Providence, en Rhode Island.
Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Patrice, qui connaît tout ça à merveille. On peut peut-être parler des différences, si tu veux, c'est intéressant de voir des personnes avec des visions du monde qu'on pourrait qualifier d'opposées s'entendre finalement aussi bien, parce qu'ils prennent plaisir à s'écrire l'un à l'autre et à débattre.
Alors, il y a une partie de plaisir, moi je dirais, il y a une partie où ils s'étripent, mais sans vouloir se dire « je t'en mets plein la tronche ». Mais il y a quand même ce côté-là.
J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'agressivité entre deux. Hein.
Je pense que si.
Lorsque
Howard dit à moi en 35 « À propos, votre ami Mussolini », pense que le « votre ami Mussolini » est un tantinet ironique.
Oui, mais c'est pas ce que j'appelle de l'agressivité. Ouais, tu vois. Bon. On peut parler, si ça vous amuse, des différences opposant... Généralement, quand on oppose Howard et Lovecraft, on parle souvent des différences entre les deux en matière de rapport à la civilisation. Hein, et... Lovecraft passant pour le champ de la civilisation, le défenseur de la civilisation, et Howard plutôt comme quelqu'un d'assez critique. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ?
Bah, c'est exactement ça. C'est, alors, ce qu'il faut voir dans cette correspondance, c'est qu'il ne faut surtout pas la lire au pied de la lettre, si je puis dire, pour des lettres. C'est que Howard n'allait jamais laisser la vérité se mettre entre lui et le fait de pouvoir gagner son argument. Et donc, il s'ensuit des descriptions totalement cocasses, inventées ou totalement déformées. Lorsqu'il veut expliquer à Lovecraft qu'il vit dans une région qui est totalement, c'est limite le Far West. Lovecraft était sincèrement persuadé, après avoir échangé avec Howard, que le Texas était vraiment le Far West, que tout le monde avait sur lui ses deux six guns, et que les gens s'abattaient dans la rue tous les samedis matins. Il avait une vision absolument incroyable, parce que Howard s'amusait à raconter les choses avec le talent de conteur. En fait, il faut prendre ces lettres de Howard comme étant ses nouvelles, avec le talent de conteur de Howard. Il y a un exemple que je traduis dans les extraits que j'ai donnés dans le bouquin d'ActuSF. Donc, fin 33, décembre 33, Howard rentre d'une petite ville qui est située à 15 bornes de Cross Plains, là où il habite. Il a été voir un match de boxe de mémoire avec 3 amis. Et il rentre, il fait nuit, il y a du brouillard, ils doivent rouler à 20 ou 30 à l'heure, parce que les routes ne sont pas goudronnées au Texas, ils roulent très très lentement, et là il y a un poteau qui est au milieu de la route, et que le conducteur, je ne sais plus qui conduit la voiture, peut-être Howard, je ne me rappelle plus, ne voit pas. Et il rentre dedans à 20 ou 25 km/h. Vous imaginez que la voiture fait boum, et ils doivent tous passer la tête en avant comme ça. les témoins.
Il n'y a pas de ceinture à l'époque.
Il n'y a pas de ceinture, mais tous les témoins, donc les trois autres, disent bah oui, effectivement, on a eu un petit accident, un léger accrochage, on est reparti direct, il n'y a même pas eu trois égratignures. Et deux, trois jours après, Howard écrit à Derlette, il raconte oui, j'ai eu un accident, voilà, enfin, ça a été assez violent. Et deux semaines après, il envoie une lettre à Lovecraft, et là, c'est la voiture a foncé, on s'est écrasé contre le poteau, mon père est arrivé, et grâce à lui, j'ai la vie sauve, la violence du choc est telle que mes copains n'ont pas dormi de la nuit, et c'est de l'invention la plus totale. Enfin, c'est une exagération des faits. Et ces deux hommes-là, Lovecraft, alors je connais un peu moins bien le côté lovecraftien, mais pour arriver à la vérité de ce qu'ils veulent raconter dans leurs lettres, il faut vraiment, mais il faut prendre une pelle et enlever mais toutes les couches de conneries qu'il peut y avoir, parce que c'est juste hallucinant. Quand vous avez Lovecraft qui prend son ton d'entomologiste, alors oui, bien sûr, pour contrôler les émotions des humains, il faudrait qu'un tel soit passe un concours pour pouvoir voter, parce que sinon, il est trop, avec les quotas d'intelligence. Et Howard, à côté, qui invente des épisodes du Far West qui n'ont jamais existé ou qui ont existé depuis des ans auparavant.
Mais ce que tu dis de Howard, je pense que c'est exact aussi pour Lovecraft. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément prendre ses déclarations dans ses lettres, dans ses correspondances, au pied de la lettre. Ce sont aussi des postures. Alors on peut après les justifier de différentes manières. Mais et c'est non seulement vrai, je pense, de la correspondance. Alors pareil, je ne m'aventurerai pas pour Howard, que je ne connais pas vraiment, aussi, en tout cas aussi bien que toi. Mais il en va de même des nouvelles de Lovecraft, c'est-à-dire que, certes, vous pouvez, si vous voulez, vous arrêter à la surface, les prendre au pied de la lettre et considérer que l'horreur est finalement ce à quoi il cherche à nous amener. Il y a d'autres choses que l'horreur. Il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des textes, je trouve, il y a des textes absolument fascinants, comme par exemple Les Montagnes Hallucinées, dont je parlais hier, ou Dans l'abîme du temps, où je pense que le véritable Lovecraft. C'est toujours difficile à dire. Est-ce qu'il est faux dans ses mensonges ou dans ses périphéries? Probablement pas, c'est un ensemble. Mais creusez, regardez ce qu'il y a dans Les Montagnes Hallucinées. Finalement, vous verrez qu'on arrive à un discours sur la civilisation, sur la beauté, sur la poésie, qui finalement ne correspond pas à l'image qu'on se fait généralement de Lovecraft, c'est-à-dire qu'on cherche à véhiculer de Lovecraft comme étant celle d'un personnage plutôt antisémite, raciste, très sûr de lui, pouvant adopter des attitudes extrêmement rigoristes. C'est pas ce que je vois dans ces nouvelles, et j'aurais tendance à dire que le véritable Lovecraft se trouve plus dans les nouvelles, dans la fiction paradoxalement, que dans certaines correspondances.
Je suis assez d'accord avec ça, et je rajouterais pour Howard qu'il faut souvent prendre ses lettres comme de la fiction.
Oui, j'allais dire là un peu la même chose pour Lovecraft. C'est très curieux, le rapport entre fiction et non-fiction, je ne sais pas si vous avez déjà croisé des personnes qui ne lisent que des romans, qui ne lisent que des ouvrages historiques, et qui vous expliquent, ah oui, mais moi je ne lis que des ouvrages historiques, je ne lis que des biographies autres, parce que je ne m'intéresse qu'à la vérité, je n'aime pas la fiction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé souvent. Pour m'être aussi beaucoup intéressé à l'histoire, il n'y a pas d'ouvrage d'histoire à l'intérieur desquels il n'y ait pas de part de fiction. On ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire, elle est faite aussi d'approximations, elle est faite d'erreurs. C'est très, très, très difficile d'arriver à une part de vérité là-dedans. En revanche, là, je vais faire un petit détour par 19e et par Balzac. J'ai l'impression que si on veut obtenir la vérité ou une certaine vérité sur le 19e siècle, en tout cas sur la première moitié, lire La Comédie humaine, c'est pas mal.
Tout à fait d'accord. Une chose qui est intéressante dans cette correspondance au Ward de Frappe, c'est comment, en tout cas c'est beaucoup plus vrai du côté Ward, c'est comment les échanges qu'il a avec Lovecraft vont nourrir son œuvre très vite. Ils ont pendant un an un débat qui dure sur le mental contre le physique, dans lequel donc Lovecraft explique que le savant, c'est l'être ultime de la société, celui qui est froid, qui calcule, qui ne se laisse pas battre par ses émotions, ni dirigé par ses émotions, parce que les émotions, franchement, c'est pas bien. Le cerveau, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et Howard qui prend le parti pris évidemment opposé et qui dit, mais franchement, entre aller assister à une conférence d'un savant où je vais m'ennuyer et aller voir un striptease au club du coin, je préfère aller voir le striptease. Et dans lequel on sent que Howard n'est pas vraiment sincère, parce qu'il est malgré tout, quoi qu'il dise, il est un intellectuel dans sa ville. Et c'est son drame, Howard, c'est qu'il est un intellectuel coincé dans une petite ville du Texas avec tout ce que vous pouvez imaginer comme empêchement, difficulté à pouvoir être qui il est. Il gagne quand même sa vie de sa plume, ce que les Américains de Cross Plains ne comprennent pas. Mais quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier, quoi ?
Oui, il est le deuxième homme le plus riche de sa ville, c'est ça, non ?
Alors, la légende veut qu'il ait été l'homme le plus riche de sa ville, mais c'est une légende. Ça n'a jamais été tracé.
Moi, je me souvenais du deuxième homme le plus riche de sa ville après le banquier.
Non, c'est le plus riche, il gagnait plus que le banquier. Si tu avais le guide de voir, mais très bien, tu verrais que c'est une anecdote.
Mais enfin, c'est une fiction, ça, non ?
Donc, disais-je, on voit donc dans leurs échanges, on voit que ça commence, que ça influence beaucoup Howard sur certains textes. Donc, l'échange mental et physique, c'est ça qui, à mon sens, est à l'origine de ce roman absolument foiré de Howard qui est Almuric, qui est un truc qui est incomplet, qui est une horreur, que j'ai donné en dernier chez Bragelonne, parce que c'est un texte qui n'a pas été fini par lui, qui n'a pas été relu, qui est difficilement défendable. Par contre, il est extrêmement intéressant en tant que témoignage à un moment de... On sent que c'est un exutoire pour Howard par rapport à la correspondance qu'il avait en même temps avec Lovecraft. Et très clairement, dans certaines nouvelles, c'est Howard qui veut s'en prendre à Lovecraft. Des fois, il rate, c'est le cas d'Almuric, et des fois, il réussit très bien. Et c'est le cas des Pigeons de l'Enfer. Alors, les Pigeons de l'Enfer, c'est une des meilleures nouvelles de Howard, c'est une nouvelle d'horreur qui a un titre qui, malheureusement, n'est pas très horrifique... parce que voilà, les Pigeons de l'Enfer, ça peut être horrifiant pour un Parisien, comme je dis dans le bouquin, mais à part ça, c'est pas très, très effrayant, un pigeon. Mais il n'empêche, cette nouvelle est un chef-d'œuvre absolu. Stephen King lui-même considère que c'est une des meilleures nouvelles d'histoire d'horreur jamais écrite. En 1930, au tout début de leur correspondance, Howard et Lovecraft échangent sur qu'est-ce qui fait qu'un récit va être horrifique pour quelqu'un. Et donc, ils ont tout un long débat sur il faut qu'on parle de ce qu'on connaît, de la région dans laquelle on vit, etc. Le débat est abandonné. Et 2-3 ans après, Lovecraft, très pompeusement, arrive, de toute façon, Rhode Island, la région où je vis, c'est le cadre parfait pour une histoire d'horreur. Ça ne sert à rien de chercher. Ça ne peut être que là. On ne peut pas faire mieux. Un an plus tard, Howard écrit Les Pigeons de l'Enfer. Les deux héros des Pigeons de l'Enfer, enfin, au début de la nouvelle, c'est deux types qui viennent du Rhode Island, étonnant, qui se... donc où habitait Lovecraft.
Si oui, ce qui est marrant, c'est quand même un moment, en gros, Lovecraft au pays des montagnes hallucinées, qui, comme vous le savez, ne se passe pas du tout au Rhode Island.
D'accord. Donc je termine mon histoire. Et donc ces deux types qui arrivent et qui tombent en panne quelque part dans le sud des États-Unis. On ne sait jamais où. C'est dans le sud des États-Unis, on ne sait même pas dans quel état c'est. C'est dans un état qui était un état confédéré, c'est tout ce qu'on peut en deviner. Et donc là, il y en a un qui va se faire tuer et l'autre qui va devenir fou, qui va s'évanouir sans arrêt. On voit tout de suite, parce que là, il dit, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez Rhode Island. Et en fait, il arrive dans une région du sud des États-Unis qui est le cadre parfait d'une horreur absolue à laquelle il y en a un qui ne va pas survivre et l'autre qui va quasiment devenir fou. Titre des chapitres de la nouvelle de Howard, celui qui sifflait dans les ténèbres. L'appel de la Zouvambi, donc l'appel de Cthulhu, évidemment. Tous les titres de la nouvelle sont des hommages, enfin des petites piques déguisées à Lovecraft. Et grosso modo, le sous-texte de cette nouvelle, c'est « Hé, vieux, regarde, on peut avoir peur ailleurs qu'à Rhode Island. » Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et c'est quelque chose qu'on a découvert il y a quelques années en faisant des comparaisons. Enfin, voilà. C'est assez étonnant. Donc, meilleurs amis, je crois qu'on a appelé le titre de la conférence « Les meilleurs amis ».
Non. L'amitié entre...
Non, c'est pas d'amitié, c'est les meilleurs ennemis. Et en fait, on sent qu'il y a un côté entre eux où... Alors, ils ne se sont jamais rencontrés. Je pense que s'il y avait eu rencontre, ça aurait pu changer les choses. Donc, ça a failli se faire en 1932. En mars 32, il y a Lovecraft qui descend dans le sud des États-Unis et qui va passer vers Nouvelle-Orléans. Et à ce moment-là, Howard est fauché, il n'a pas d'argent. Et donc, du coup, il ne peut pas descendre pour aller voir, rencontrer Lovecraft, qui va rencontrer Kirk Mashburn, l'auteur mineur de Weird Tales. Et donc Howard, il va carrément se prendre une grosse cuite hein, le soir. Et donc il écrit une lettre à un moment qui est totalement cuité. Et il écrit ça, il explique à un de ses meilleurs amis qu'il ne peut pas aller voir Lovecraft et qu'il est dévasté. La lettre, c'est XKWEVR. Et on comprend en fait qu'il a bu et qu'il essaie de taper. Il a quand même envoyé la lettre le lendemain, ce qui, à mon avis, pour moi, me laisse penser ou supposer que Howard a très bien relu sa lettre. Il dit « Oh, je vais montrer à mon meilleur ami que je suis bourré, et donc je lui envoie quand même la lettre. » Parce que c'est pas un email, quoi, c'est une lettre. Bref, ça reste du Howard. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Je me suis toujours demandé s'il y avait eu cette rencontre, est-ce que leurs rapports auraient été plus cordiaux. Parce que sur la fin de la correspondance, Howard est vraiment très acide envers... Il y a ce passage de 135 où il parle de Mussolini, où il fait une page et demie sur les amis fascistes de Lovecraft. C'est très violent, quand même.
Moi, ce que je pense, c'est que tu n'es jamais acide qu'avec les personnes que tu aimes.
sinon tu réponds pas, tu n'écris pas. Et voilà, si tu veux, l'admiration que Ward pouvait avoir, l'admiration réciproque d'ailleurs, hein, mais que Ward pouvait avoir pour Lovecraft, très certainement l'a conduit à tenir ce type de propos dans ses lettres. Une éventuelle rencontre, moi c'est rigolo parce qu'avant, il y a des années de ça, quand j'étais gamin, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'ils s'étaient rencontrés. Enfin, je vous parle d'il y a, vraiment, quand j'étais gamin, 15-16 ans, ces deux auteurs qui pour moi avaient toujours été ensemble, j'avais lu des choses sur leur amitié, et c'est très curieux de parler d'amitié au World Lovecraft, parce qu'effectivement, de cette façon, qui dit amitié dit rencontre. Ce n'est pas le cas. Peut-être un jour un écrivain écrira quelque chose sur la rencontre cachée de Howard et Lovecraft et pourquoi justement il n'en a jamais rien été dit, pourquoi ça a été caché jusque-là.
Ça a déjà été fait, c'est Sylvain Moore qui a fait ça.
C'est vrai, il a fait un truc là-dessus.
Bon, ben, vous voyez. Comme quoi la fiction rejoint la réalité. À moins que Patrice nous raconte encore une histoire.
Non, je voulais un petit peu revenir sur un terrain plus humain. Moi, je trouve que j'adore la correspondance de Lovecraft, c'est vraiment pour moi une correspondance que je lis et je relis avec plaisir dans les deux sens, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on sent vraiment ces deux types dans leur époque et qui commentent le monde qui les entoure. Et il y a, moi, les passages que je dirais pas que je préfère, mais presque en tout cas les plus émouvants dans ces lettres sont les passages où il ne parle pas justement de choses sérieuses, mais de choses futiles. Lorsqu'il y a Howard qui parle de ses chats. Donc il vit au Texas, alors il n'y a pas de chat au sens, aujourd'hui on a un chat ou deux chats dans un appartement, c'est des chats, ils passent, ils rentrent, ils sortent, ils vivent, ils meurent, il ne sait pas trop comment ils s'appellent. Donc Howard s'amusait à donner des noms totalement délirants à ces chats, donc il y avait Mussolini, il y avait Staline, il a donné des noms totalement délirants à ces chats, et il raconte à Lovecraft tout ce qui lui arrive, tout ce qui arrive aux petits chats, donc il y en a un qui est mort, il y en a un, il est parti, il n'est jamais revenu, et les passages pour moi les plus extraordinaires, c'est les passages où il parle de bouffe, dans lesquels ils font des pages entières sur, alors Howard qui raconte son séjour à la Nouvelle-Orléans, lorsqu'il s'est régalé de fruits de mer, de machin, et il décrit tous les fruits de mer qu'il a pu manger, il s'en est mis, on devine sans mettre plein la panse, et donc Lovecraft et les fruits de mer. Alors, on ne devait pas faire de psychologie de bas étage, s'il vous plaît, mais Lovecraft, lorsqu'il voyait des fruits de mer, il explique dans ses lettres que lorsqu'il habitait, je ne sais plus quelle de ses adresses, il habitait au premier étage d'une maison qui était autrefois au rez-de-chaussée. Il y avait une cuisine, il y a toujours encore de service là où on le monte plat, ouais. Et donc parfois lorsqu'on sentait encore les odeurs de fruits de mer qui montaient, j'avais envie de vomir. Et il raconte sur des pages à Howard qu'il adore, lui son repas préféré ça reste les crèmes glacées, et qui explique toutes les crèmes glacées, et Howard qui lui répond toutes les sortes de charcuteries texanes qui puissent exister, j'ai goûté parce que voilà, c'est conscience professionnelle, mais c'est quand même assez costaud. Et ces passages sont extraordinaires parce que on a ces deux intellectuels qui sont en train de discuter de sujets très sérieux, et brusquement, hop, ça s'arrête. Ah, au propos de bouffe, tiens, j'ai goûté tel truc, et c'est absolument extraordinaire, et j'adore manger le truc avec la crème glacée. Et du coup, ces deux intellectuels deviennent deux êtres humains, deux gens, et on aimerait se retrouver quelque part à table avec eux, à côté, à discuter un petit peu de tout ça. Donc voilà. J'en ai terminé. Est-ce que tu as des choses encore à dire, David ?
Non, sinon que je trouve cette relation extrêmement touchante. On traîne, Patrice a dû vous le dire en introduction, j'imagine.
Non, pas encore.
Ah bon, d'accord.
Je te laissais la primeur.
C'est la primeur de quelque chose dont on parle depuis, à chaque fois je me trouve dans les années
50.
Voilà, c'est 5 ans pour toi, ça doit faire 6 ou 7 pour moi. On caresse le rêve un jour de traduire ce qu'il reste de la correspondance au World of Craft en faisant une sorte d'ouvrage. On rêve, voilà, une édition critique avec une préface, en remettant les choses dans le contexte, etc., en essayant d'expliquer un petit peu. On a eu un peu de mal, enfin on n'a pas trouvé jusqu'à présent d'éditeur, parce qu'évidemment on ne peut pas se cacher que ce type d'ouvrage ne va intéresser quoi que 500 personnes, mais 500 dans le meilleur des cas, mettons 350. Mais peut-être qu'avec les financements participatifs, justement on en parlait hier, ce sont des choses qui deviendraient envisageables. Voilà, c'est un rêve.
Voilà, et donc il y en a une trentaine de pages, cette correspondance. Donc j'ai fait quelques ça représente 1, je ne sais plus combien pour cent de la correspondance. Il y a plus de 30 pages, c'est écrit petit, il n'y a pas d'image. Voilà, donc si vous n'avez pas, je vous conseille d'acheter cette monographie parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Vous allez apprendre plein de choses sur Lovecraft. Et voilà, et cette partie Howard Lovecraft est à mon sens vraiment hyper intéressante. On apprend beaucoup de choses sur les deux auteurs et ça serait bien de les recontextualiser. Il nous reste pas mal de temps. Oui, il nous reste du temps. Je crois que le plus simple, ça serait qu'on réponde à vos...
Il reste 10 minutes.
10 minutes ?
Oui.
Il nous reste du temps. C'est relatif comme donné. Si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Si vous n'en avez pas, moi, c'est pas grave. Bon, je peux faire parler David, il n'y a pas de souci.
Pas de questions. Autre chose à propos de leur amitié, quand même. Alors là, c'est pas de la correspondance ou c'est une dernière lettre, une dernière missive à laquelle Howard n'a pas répondu, parce que curieusement, le dernier des deux à avoir écrit à l'autre, c'est Lovecraft. Hein.
C'est ça.
Tu sais à quoi je pense ?
Non.
C'est-à-dire que Howard était plus jeune que Lovecraft, hein, en 1906, Lovecraft c'est 1990. Howard meurt avant Lovecraft, et pourtant, je pense que cette amitié aussi, elle, peut-être de manière symbolique, elle a d'autant plus d'importance, ou elle prend d'autant plus de. Comment dire, elle nous touche d'autant plus, ou elle me touche d'autant plus, que à la mort de Howard succède celle de Lovecraft un an après. Ils sont proches, même dans la mort, et la mort de Howard avait beaucoup marqué, tu peux peut-être en dire un mot, la mort de Howard avait beaucoup marqué, beaucoup affecté Lovecraft, qui a écrit des choses très jolies à son sujet.
Oui, il a écrit à tous ses correspondants, il a écrit des articles.
C'est pour ça que je te dis que l'histoire de l'agressivité entre les deux, bon après chacun son interprétation, peut-être qu'on a deux manières de vivre l'agressivité de manière totalement différente, d'accorder à l'agressivité un sens qui peut être un peu différent. Moi, je ne vois pas, en tout cas, Lovecraft débattre de cette manière et sur des sujets pareils avec un homme qu'il n'estimerait pas et qu'il n'aimerait pas.
Il est évident que, à la différence de la plupart des correspondants de Lovecraft, et ça c'est Joshi qui me disait, il disait que lui, alors Joshi déteste l'œuvre de Howard, il ne s'en cache pas, par contre, il trouve que c'est un excellent correspondant. Et il me disait qu'à la différence de la plupart des correspondants de Lovecraft, tous les gens qui
l'appellent. Joshi.
Esti Joshi, oui, c'est le plus grand spécialiste au monde de Lovecraft, pour ceux qui ne le savent pas. C'est lui qui a dirigé l'édition restaurée chez Arkham House. Il a commis une biographie monstrueuse qui s'appelle Lovecraft Life, qui est exceptionnelle.
Je crois qu'il donne même la marque des chaussettes de la grand-mère de Lovecraft. C'est
extraordinaire. Donc Joshi me disait que ce qu'il aimait beaucoup en fait dans la correspondance de Howard Lovecraft, c'est que contrairement à la plupart des autres correspondants, grands correspondants lovecraftiens, que ce soit Bloch, Derleth, etc., tous ces gens-là étaient en admiration béate devant Lovecraft, le maître, celui qui sait tout, celui qui a tout fait, le sommet atteint. Lorsque Howard entame sa correspondance, c'est exactement la même chose. Oh, excusez-moi de vous déranger, cher monsieur Lovecraft, je m'excuse de vouloir solliciter de votre temps, car je sais qu'il est très précieux et je ne suis qu'un humble maire du Texas, mais s'il vous plaît, il est obligé de répondre à ma lettre. Et progressivement, en fait, Howard apprend de l'assurance jusqu'à devenir avoir des échanges. Hein, c'est plus dire Mr. Lovecraft, c'est dire HPL, et puis à la fin, c'est your friend Mr. Linney. Et en fait, Howard ne s'en laissait pas compter, il n'était pas impressionné, alors au bout d'un certain temps, au bout d'un an de correspondance, au bout d'un an d'échange, mais il ne s'est pas laissé impressionner par le statut de Lovecraft, par son érudition, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, Lovecraft. Alors au tout début, donc, voilà, ce mec, il est extrêmement cultivé, je ne vais jamais lui arriver à la cheville, et au bout d'un moment, même s'il n'était pas, pas d'accord avec lui, même si Howard n'avait pas forcément les arguments intellectuels, c'est pour ça que parfois il allait un petit peu les déplacer, les emprunter à tel ou tel bouquin pour arriver à avoir raison dans leur débat, mais il ne se laissait pas impressionner par ce type. Et je pense que c'est justement ce côté-là qui a beaucoup plu aussi à Lovecraft, c'est qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas en train de lui dire « Toi, Lovecraft, qui est un génie !»
Oui, peut-être Patrice, mais je ne suis pas sûr que Lovecraft était quelqu'un qui ait jamais cherché à impressionner.
Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais les autres l'étaient clairement.
Oui, non, mais si tu veux, c'est pas parce que tu impressionnes les autres que tu cherches nécessairement à les impressionner. Je pense que Howard a réussi à nouer une correspondance avec Lovecraft, naturelle et confraternelle, mais qui tient à la nature des deux hommes. Je ne crois pas d'ailleurs que Howard aurait cherché, ou ça ne l'aurait pas intéressé d'avoir une correspondance de cette nature avec quelqu'un voilà, qui se serait passé lui-même sur un piédestal.
Oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit que lorsque les correspondances de Howard ne fonctionnent pas avec la même personne, les lettres font une page et elles s'étiolent.
Ça s'arrête.
Oui. Oui. Du côté Howard,
ouais.
Alors il existe à l'heure actuelle 9 lettres de Howard à Ashton Smith. C'est 9 ou 10, peut-être 9, bref. Mais elles font toute une page, deux pages, trois pages. Donc ça a commencé très tard. Ça a commencé en décembre 32 pour la première de mémoire. Donc ça n'a absolument pas l'importance qu'a celle avec Lovecraft. La seule qui est assez intéressante, c'est celle avec August Derleth. Alors August Derleth détestait les nouvelles de Conan parce que c'était beaucoup trop sanglant. Évidemment, quand quelqu'un meurt dans une nouvelle qui a du sens, c'est pas bien. Donc du coup, Derleth avait beaucoup de mal. Mais en revanche, les deux hommes savaient se trouver sur un terrain commun qui était le régionalisme. Alors je ne connais pas bien l'œuvre de Derleth. Je connais, j'ai lu comme tout le monde, ces pastiches lovecraftiens qui sont d'un ennui assez terrible. En revanche, il était apparemment très respecté et très estimable en tant qu'auteur régionaliste de sa région du Wisconsin, où il a écrit pas mal de choses. Et ce côté régionaliste plaisait beaucoup à Ward. Et ils ont beaucoup échangé sur les légendes locales, donc les légendes indiennes, etc., sur le Texas, les légendes pari-indiennes aussi pour le Wisconsin, et ce qui a pu leur arriver. Ce qui fait qu'ils ont correspondu 3 ans, donc 2 fois moins qu'avec Lovecraft, mais il y a plus d'une centaine de pages de Ward à Derleth, hein, qui sont vraiment dans l'ensemble assez intéressantes. Alors, sauf les côtés où, lorsqu'il parle boulot, il y a un côté boulot chez Derleth. Oui, j'ai vendu telle nouvelle pour $14.43. Donc, on voit que Ward fait la même chose, mais le cœur y est moins. Mais par contre, dès qu'il s'agit de raconter les légendes, ils sont vraiment très intéressants. Et du coup, on voit le nombre de pages qui trahit clairement l'intérêt. On a à peu près toutes les lettres que Ward a pu écrire. En tout cas, une très grosse partie ont survécu, ce qui est quand même une chance assez incroyable. J'en ai retrouvé il y a 3 mois. Donc voilà.
À du temps arrivé.
N'est-ce pas? Une autre question? Oui. Oui, le monsieur au fond de la salle.
Moi, ce que j'avais noté, alors je connais bien plus Howard que Lovecraft.
C'est bien.
Par rapport à ce que tu disais, effectivement, on voit l'évolution dans les lettres du rapport entre. Qu'avait Howard par rapport à. Lovecraft, au début c'était je ne mérite pas maître que faire un but avec le plan d'assurance. On voit ça aussi dans ce qu'il a écrit. Il a commencé par faire du plagiat pas très heureux de Lovecraft et puis au fur et à mesure il a digéré Lovecraft pour faire quelque chose de beaucoup plus personnel. Est-ce que, donc j'arrive à une question au final.
Je pense que je la devine.
Est-ce que Howard a eu une quelconque influence sur l'écriture de Lovecraft?
J'aurais tendance à dire non.
Oui, je suis totalement d'accord.
J'aurais tendance à dire non, même pas du tout. À cette période, si vous voulez, donc c'est
ces années 30. Hein. Les textes que Lovecraft écrit sont, me semble-t-il, des textes qu'il porte en lui depuis bien longtemps et bien avant sa correspondance avec Howard. Qui sont vraiment pour moi l'aboutissement, si vous voulez, de tout son travail d'écrivain des années 20. Ça commence, la première nouvelle professionnelle c'est 23, c'est Dagon. J'ai envie de vous dire, Lovecraft serait mort en 24. Je ne sais pas si aujourd'hui je pense qu'on l'étudierait tout simplement pas. Il y a vraiment une progression très forte entre Dagon, la paix d'Arthulou, la catomérie du cadavre inconnu, les montagnes hallucinées, puis dans la ligne du temps. Je pense que s'il y a une influence à rechercher chez Lovecraft, pour expliquer ces nouvelles-là, ces longues nouvelles, les dernières notamment, c'est plutôt son contexte personnel, ses relations avec les autres, peut-être avec Barlow d'ailleurs. Je pense que sa relation à Barlow, sur laquelle on s'étendra ou pas, peut éclairer un texte comme dans la Bible du temps de manière assez intéressante. Puisque pour la première fois chez Lovecraft, si vous voulez, vous avez généralement les personnages chez Lovecraft sont des solitaires. Mais dans la vie du temps, vous avez un professeur et son fils, ce qui est quand même assez unique.
Et dans ce texte, il rend hommage à Howard, il parle des Cimériens et du Diochromia.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Après, il y a des clins d'œil, si vous voulez.
Voilà, mais ça va pas au-delà du clin d'œil. De toute façon, il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, quand on dit Lovecraft, on dit automatiquement Weird Tales, c'est oui et non, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que à partir du moment
où Wright
prend les rênes de la revue, il faut, dans les années 30, sur toute la durée des années 30, il y a 2 textes et demi de Lovecraft dans Weird Tales, c'est tout. Il n'est pas publié, il va être publié après sa mort.
Et pareil, Howard va faire la couverture de Weird Tales, Lovecraft, jamais.
Les poulpes, c'est moins vendeur, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc l'influence, elle ne peut être par définition au mieux que limite, je t'en dis.
Non, mais j'aime bien l'histoire des poules, parce que c'est des histoires de femmes nues, en fait. La raison pour laquelle, moi, je garde en mémoire des couvertures comme ça, où c'est des nouvelles de Ward qui font la couverture, ou ce qu'on veut, souvent, il y a des femmes nues. Alors forcément, si vous cherchez des femmes nues chez Lovecraft, vous allez avoir du mal à en trouver.
Non, non, non. Pourquoi tu rajoutes nues?
Pas comment dénuder.
Non, des femmes tout court. Il n'y en a pas.
Tu as des femmes chez Lovecraft.
Oui,
tu as des femmes.
Il y a une femme qui passe par la fenêtre. Oh, oh. Fin de nouvelle.
Non, non, tu as des femmes, tu as des mères, tu as des nourrices. Enfin bon, souvent d'ailleurs, je dirais une femme sur deux n'a même pas de nom. Elle est innommable.
Vous êtes prié de ne pas faire de lien entre ça et les fruits de mer. Merci.
Je te laisse la parole.
Moi, je mets plus ça sur le compte de la pudeur. C'est-à-dire qu'il y a un côté... comment pourrions-nous le définir? C'est pas petit. J'arrive jamais à trouver les mots pour ça. C'est une certaine retenue, une certaine délicatesse, une certaine pudeur. Je pense que c'est le terme approprié, finalement, chez Lovecraft. Retenue, pudeur qui l'empêche de parler de choses qu'il vivrait peut-être comme une sorte d'impolitesse ou de maladresse ou quelque chose qui serait pas digne, en quelque sorte. Après, chacun interprète à sa manière. On a longtemps débattu de ces choses-là. J'ai mes idées aussi sur le sujet, qui ne sont pas forcément les siennes. Mais...
un des meilleurs passages de la correspondance, quand même, c'est en 1935, donc Howard a besoin d'argent. Parce que sa mère est hospitalisée, elle devient grabataire, il faut absolument payer les factures. Et donc là, il se retrouve contraint d'écrire des nouvelles dites spices, donc des nouvelles d'aventures érotiques. Alors érotiques avec le... aujourd'hui, un enfant de 8 ans peut lire ça, il n'y a aucun souci. Mais à l'époque, c'est super osé. Et donc il va placer 6-7 textes qu'il va écrire en un jour chacun. C'est des nouvelles assez illisibles, mais voilà, ça s'écrit très vite. Et l'éditeur paye très vite et très bien. C'est 2 cents le mot, donc c'est 2 fois le tarif des pulp habituels. C'est 2 fois et demi le tarif de Weird Tales. Donc automatiquement, quand quelqu'un a besoin d'argent, il sait ce qu'il fait. Et donc là, Howard écrit Lovecraft, il dit récemment, là, j'ai vendu quelques nouvelles à la ligne des Spices, de Trojan. Et vous devriez essayer. Et vous faites comme moi, vous racontez une de vos histoires de cul, vous déguisez un petit peu les noms et les trucs, et vous envoyez, ça se vend tout seul. Et je suis autant amusé par Howard qui explique, vous racontez une histoire de cul que vous allez un petit peu déguiser, et Lovecraft qui reçoit cette lettre et qui lit ça. Et je crois que je paierais très cher pour être là et être une petite souris qui voit la réaction de Lovecraft en train de lire, vous écrivez un truc avec vos histoires de cul.
Ouais, je me demande à quelle mesure c'est pas une image caricaturale de Lovecraft.
Et je crois d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait Anchorage qui avait ils avaient inventé une soi-disant nouvelle confession de Lovecraft, un texte qu'on aurait retrouvé qui s'appelait... c'est un truc de Price de mémoire qui s'appelait j'ai porté le soutien-gorge The Brassier of Doom, le soutien-gorge du destin funèbre. Et donc ça aurait été une confession de Lovecraft envoyée au Confession Magazine américain, et c'était un superbe canular qui était assez drôle. Dernière question et puis on va y aller.
Oui, comme vous disiez au début, il faut lire à la fois Howard et Lovecraft par rapport à leur époque. Les deux de racisme.
Mais pas que deux, enfin je veux dire, oui. C'est l'ensemble. Enfin, d'ailleurs, on ne peut pas.
Comme il y a eu pour Hergé, pour tout le monde.
Non, mais on ne peut pas.
Parce que je sois à l'époque, comme l'auteur, on ne peut pas les séparer. Voilà. Mais je voudrais savoir, dans cette correspondance, est-ce que ce sujet-là, par contre, est apparu?
Oui, bien sûr, il apparaît au début de la correspondance, lorsque Howard est manifestement sous l'emprise et l'admiration de Lovecraft, et il y a Lovecraft qui lui dit, c'est une honte, maintenant c'est des Rital qui ont pris la maison de Paul Revere, donc vous savez, la chevauchée au moment de l'indépendance américaine, et là, il y a Howard qui lui répond, mais oui, c'est pas possible, et il lui répond, c'est pareil ici, on a des Mexicains, donc pour Howard, c'était des Mexicains. Il y a un Mexicain qui s'est fait tuer il y a quelques temps, et là, du coup, ils ont envoyé une expédition, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on a envoyé tant d'hommes pour un Mexicain mort. Donc, il y a quelques passages qui sont assez jarbants, il n'y a pas d'autre terme, mais qu'il faut prendre pour autant un truc dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de, côté militant, activiste, etc., chez l'un comme chez l'autre. Ça, c'est extrêmement important. Et si aujourd'hui, on peut reprocher, alors, je ne vois pas trop l'intérêt de reprocher à Howard et Lovecraft le fait d'avoir été des hommes de leur temps. Je trouve que c'est très facile de juger les gens avec 80 ans de recul. Ce que je trouve assez dommageable, c'est que ces gens qui émettent ces critiques ne prennent pas la peine de lire les textes qu'on publiait dans Weird Tales à ce moment-là ou dans n'importe quel pulp magazine. Lorsque Howard envoie des nouvelles, c'est jamais le racisme qui pose problème. Ce ne sont pas deux auteurs qui sont un problème. Lorsqu'on parle d'un noir et qu'on dit que c'est un nigger, ça ne pose aucun problème à n'importe quelle revue américaine de cette époque-là. Vous lisez, j'ai lu dans la deuxième année de Weird Tales, une nouvelle dans laquelle c'est une famille qui disparaît, et en fait c'est une femme qui se retrouve dans une grotte où elle va tomber amoureuse d'un gorille, et elle va concevoir un enfant avec le gorille, et ils vont mourir dans une inondation. Donc déjà, la nouvelle, c'est assez complexe, et le narrateur qui conclut, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi est-ce que les femmes qui se promènent à mon bras dans les parcs, lorsqu'elles voient un noir, elles sont fascinées, parce qu'automatiquement il ressemble à un singe. Ça ne posait problème à personne.
Non, mais Howard et Lovecraft ne font pas partie du culte.
Et voilà, c'est ça qui est... Je veux dire, pour l'époque, Howard ne comprenait pas qu'il y ait une loi qui interdisait à un noir de ne pas pouvoir passer la nuit dans le comté de Callahan, là où il habitait, il y a une loi qui interdisait un noir n'a pas le droit de passer la ville de la nuit dans le comté de Callahan. Et Howard était quelqu'un qui était homme de son temps, donc il était raciste dans les années 20, parce qu'il a grandi dans un milieu qui était wasp, il n'avait jamais vu de noir. Et il s'est fait avoir à son propre piège, puisque pour Howard, la première de toutes les libertés, c'est la liberté individuelle. Il mettait l'individu avant tout, avant la société, avant la civilisation. Et à un moment, il s'est rendu compte que c'était la même chose pour n'importe qui. Et donc, que quelqu'un soit de n'importe quelle couleur, l'important, c'est qu'il voulait que cette personne soit libre. Et c'est comme ça qu'il a dépassé, à partir du milieu des années 30, la plupart de ces problèmes racistes, on pourrait dire ça. Enfin, j'aime pas trop l'expression, mais qui a dépassé sa condition de texan de son temps.
Et je pense qu'il y a la même chose chez Lovecraft. C'est-à-dire que, quand on parle comme ça, quand on les accuse de racisme gauche, je pense que ça dit plus de choses sur nous et sur notre époque que sur eux. Je ne suis pas non plus un spécialiste du droit américain de cette époque-là, mais me semble-t-il, ils étaient malgré tout moins racistes que les lois de leur époque. Et ensuite, regardez aussi ce qu'ils ont fait. Moi, je reviens souvent à une nouvelle que j'adore, on l'appelle nouvelle, c'est un court roman ou un roman, c'est les montagnes hallucinées, mais la manière dont Lovecraft décrit les grands anciens, je parle en anglais, en français aussi, je le rends comme ça dans le texte, mais c'est une éducation du regard. Ce que je veux dire par là, c'est que les grands anciens, au début, dans le texte, quand il en est question, ils parlent de « things ». Je donne souvent cet exemple. Ils retrouvent des choses. Vous savez, ils font des travaux, des fouilles archéologiques, ils retrouvent des choses, things. Après, ils se rendent compte qu'en fait, c'est plus que des things, c'est des creatures, des créatures. Voilà. Puis ils ouvrent un peu, puis finalement, elles se réveillent, des machins, puis des personnes. Ils s'aperçoivent qu'elles sont conscientes, qu'elles ont une sorte d'indépendance, etc. C'est des beings. Et puis après, ensuite, on a les personnages qui s'aventurent dans leur ancienne cité, qui découvrent tous les systèmes politiques et autres. Pas mal de trucs à dire sur l'histoire de la civilisation et autres, telles que décrites par Lovecraft dans Les Montagnes Hallucinées, la poésie, les arts, la manière dont les familles vivent ensemble, la façon dont cette civilisation s'est effondrée à cause des shoguns qu'elle-même avait créés. Et les personnages parlent alors de ces choses qui étaient des signes au début, à la fin, quand ils en parlent, ils en parlent comme des human beings. Et j'ai envie de vous dire que. Quand on est capable de modifier son regard, son rapport à l'autre de cette manière, on ne peut pas être totalement raciste. Enfin, c'est un débat, moi, qui me gêne toujours.
Mais ma question n'est pas du tout là-dessus. Ma question, c'est parce qu'on a exactement le même sujet sur les écrivains de SF des années 50 qui ne parlent jamais des femmes. Ma question, c'était, comme ils ont parlé à un moment du fascisme, je voulais savoir si dans leur correspondance, factuellement, en fait, ils ont parlé de racisme. C'est juste une question...
Non,
ah oui, par rapport à... D'accord.
D'un point de vue intellectuel, non. Oui, un débat intellectuel sur la chose, non.
Non, parce que je ne crois pas que ce soit un sujet... ça ne fait pas débat.
Le mot n'existe pas dans le dictionnaire en 1930, donc il n'apparaît pas dans le dictionnaire. Donc, par définition, ils n'allaient pas l'aborder de façon théorique. Bien, je crois qu'on est arrivé au bout de notre intervention, je pense. On va enchaîner d'ici 10 minutes avec le prochain panel, donc ce sera plus forward, qui sera un parti biographique avec différentes petites surprises. Je vous ai gardé deux révélations, donc deux choses que j'ai découvertes récemment sur Ward qu'on ignorait. Et donc voilà, il y en a une, les Américains ne sont pas encore au courant, et l'autre, ils sont juste au courant. Voilà, donc on se retrouve d'ici 5-10 minutes, histoire de temps de se rafraîchir. Merci beaucoup et à tout de suite.